Donc pour revenir à cette prise en place, prendre place. Il faut revérifier quand on s'assoit le positionnement de notre bureau. Et surtout donc les objets rituels. Donc le damaru à notre droite. La cloche et dorje à notre gauche. Qu'on soit gaucher ou pas, le damaru est à droite. La cloche et dorje à gauche. Cloche et dorje, il y a différents positionnements possibles, d'accord? Selon les écoles, on prend celui qui nous convient, c'est pas, voilà. Mais chaque positionnement ont leur raison d'être. Il faut qu'on l'habite d'une raison d'être. Donc, cloche et dorje sont proches, ni trop éloignés, ni trop collés, pas collés. D'accord? Cloche et dorje, ça renvoie à l'union de clarté-vacuité. Là, ici, moi, je le dispose comme j'ai eu l'habitude de le faire. Mais il faut être souple, hein, si on vous propose une autre disposition, mais demander du sens. L'union de clarté-vacuité. Donc ici, le Vajra est à gauche de la cloche. De sorte que quand on le prend, on croise nos poignets. Parce que le Vajra doit être dans la main droite et la cloche dans la main gauche. Quand on ne se sert pas du Damaru, bien sûr. D'accord? Quand on fait des souhaits, des prières, etc., qui invite à avoir une vue Vajra. Donc dès lors que vous avez des instructions du Vajrana, que vous avez été héritier d'une transmission du Vajrana, par le biais des commentaires, de l'initiation, de l'insufflance, d'accord, vous êtes habilité à avoir une cloche et dorje. C'est une habilitation pour vous rappeler votre vue pure, votre samaya de la vue pure. Demandez pas l'autorisation à qui que ce soit. Vous estimez que vous avez une transmission. D'accord? Et Samaya de la vue pure. C'est-à-dire le devoir, hein, de s'en référer à un travail sur la vue pure. D'adopter la vue pure, après qu'on nous l'ait expliqué en quoi ça consiste, hein, la pratiquer. Et ensuite, la réaliser. Ça, c'est une autre affaire. Réaliser la vue pure, c'est l'équivalent de l'éveil, quoi. On adopte la vue pure de la base, hein, c'est une théorie. C'est le devoir de l'instructeur de vous donner une théorie. Théorie, ça veut dire ce qui doit être vu, ce qui doit être contemplé. Donc c'est théorique au sens ordinaire du mot, intellectuel, et oui, effectivement, il faut passer par là. Il faut avoir du raisonnement, de la compréhension, d'accord, pour être intelligent, hein, pour utiliser les choses intelligemment, ne pas se contenter d'une croyance. Donc théorie, c'est la vue de la base. Ensuite, on s'engage à le pratiquer. On s'engage avec nous-mêmes. On peut s'aider de témoins, comme le lama pendant l'initiation. On s'en sert comme témoin, d'accord. Mais c'est pas un gendarme. Chacun pour soi, hein, d'accord? Dans la loyauté en nos engagements. Et on est faillible, il faut se décomplexer aussi, hein. Les engagements, c'est justement pour voir nos erreurs. Il faut apprendre à se prendre à défaut avec beaucoup d'indulgence, mais de fermeté, corriger les erreurs. Donc vous n'avez pas obligatoirement besoin d'une autorité, d'un lama qui vous dise « je vous autorise à le prendre ».« Moi, j'invite à le prendre à certaines personnes, pour certaines pratiques, hein, d'accord? Mais dès lors que vous avez une initiation, le commentaire du Vajrayana, etc., vous êtes reçu, admis dans la transmission avec un lama, hein, le lama a un devoir aussi de vue pure. S'il se prétend celui qui peut autoriser quelqu'un, il octroie une autorisation, automatiquement, il brise sa vue pure. D'accord? Le lama, c'est juste un moment donné dans une situation. D'accord? Ça ne définit pas la personne. C'est pas... D'accord? Ça définit une fonction dans un moment donné. D'accord? Et si ce lama a une discrimination, je suis un lama et j'ai des disciples, eh ben, il brise sa vue pure. Vous comprenez? Et on en trouve des gens comme ça, d'accord? Ou Rinpoché, ou lama, etc., qui ne comprennent pas que le lama ou Rinpoché définissent des fonctions dans un contexte bien donné. On vous autorise la vue pure pendant l'initiation, profitez-en. Et ce n'est pas une prise d'orgueil. S'il y a de l'orgueil, il n'y aura pas de vue pure. Et à un moment donné, vous verrez en orgueil. Pas de problème, ça fait du bien. C'est ça la vue pure. Enfin, le désir d'arriver à une vue pure. Ben, on va voir, on va se prendre à défaut. Je préfère dire en erreur de vue. En décalage. Et avec l'âge, hein, on a tous un certain âge, on a l'habitude maintenant de se prendre à défaut, ça va, on a l'habitude, ça fait du mal, mais c'est du mal qui fait du bien. Hein, on se retrouve une petite génération, on se recycle, hein, d'accord? Il faut s'habituer à ce samaya de la vue pure. Hein, c'est le vœu générique du Vajrayana, du Tantrayana. On peut vous donner plein d'engagements autres, etc. Mais tous partent de cette base-là. Une vue sans discrimination. Pure, ça veut dire dénuée de discrimination. Et cette discrimination, c'est un des plus subtils voiles. C'est le deuxième voile après celui de l'ignorance fondamentale. Donc c'est difficile de se prendre au piège de la discrimination. La seule façon de faire, c'est faire comme si qu'on n'avait pas de discrimination. Vous voyez? Le jeu de l'illusion du Tantrayana, avec de la bonne volonté, pas la grosse tête, pas le syndrome de perfectionnement, de perfection. Dépasser l'idée qu'il y aura une perfection. Non, c'est au-delà de toute perfection. C'est Dzogchen, au-delà de toute perfection. Les deux démons, parce qu'on parle de démons, et deux démons, je les appelle des syndromes, qu'on a tous un peu enfouis, hein, plus ou moins. Et deux démons qui s'immiscent dans cette vue pure, c'est le syndrome de la perfection et le syndrome de l'infaillibilité. D'avoir la toute-puissance. Parce que beaucoup de fois, on peut en fantasmer, justement, avec ces... mauvaise traduction de sagesse tout accomplissante, d'avoir tout pouvoir, tout contrôle. Et on espère qu'après, on peut avoir même le contrôle sur les méchants. Mais c'est de la manipulation, vous voyez? Et puis, il n'y aura pas de méchants. Et puis, moi, je serai tout contrôle parce qu'ils verront bien que je suis éveillé, donc tout le monde va m'aimer. On peut avoir ce genre de fantasme. Ça croise, hein, des fois. L'éveil, hein, c'est comme le fantasme de l'enfant qui veut être comme papa. À un moment, non, il n'a pas envie d'être comme papa non plus, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de modèle, hein, d'accord?
C'est comme des enfants qui sont le plus proche
de
cette neutralité, cette spontanéité.
Oui, on peut...
Si ils nous inspirent.
Oui, il faut faire attention aussi, hein, comment on peut dire, l'enfant divin, enfin, magnifier l'enfance. Hein. c'est pas toujours comme ça. Il y a une cruauté aussi chez l'enfant, de la manipulation, c'est pas l'innocence. Mais effectivement, il y a une maladresse des outils. C'est moins ordonné, etc. Mais les voiles sont là, les distorsions sont là aussi quand même. Mais effectivement, je donne l'exemple de l'enfant qui arrive à se visualiser comme ça, parce qu'ils utilisent des outils sans trop d'enjeux, on va dire. Effectivement.
C'est quand même eux qui sont le plus souvent dans cette naïveté.
Voilà, mais il ne faut pas retourner en enfance non plus. Effectivement, un enfant est capable de se prendre pour un cow-boy sans discrimination possible. Alors que si on dit à quelqu'un « tu es chez Nazi », ça peut faire peur parce qu'on a une idée toute faite d'un dieu chez Nazi. « Oui, mais moi, je ne suis pas chez Nazi. La chez Nazi, c'est la compassion. » Mais on ne comprend pas que c'est une représentation d'une qualité inhérente de l'esprit, à l'esprit. Et c'est comme ça qu'on voit nos discriminations. Et il faut avoir ce regard vigilant, toujours un regard d'observation, de vigilance, voir nos réactions à chaque fois. Il y a un couple de processus cognitifs, hein. Les 5 agrégats, on peut les réduire à 2 grands. Perception, réactivité. Je vous dis, prenez-vous pour Chenrezig. La formule est erronée, mais c'est ce que peuvent entendre certaines personnes. Prenez-vous pour Chenrezig. Déjà, c'est se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça y est, c'est foutu. Si on n'a pas compris, Chenrezig, c'est une représentation d'une qualité inhérente à nous-mêmes. Mais dans une initiation, vous êtes Chenrezig. On ne sait pas comment ça va être perçu. D'accord ? Vous êtes perçu, vous allez avoir une réactivité. Vous percevez cette idée de « je suis Chenrezig ». Comment vous réagissez? Eh bien, là, vous verrez les schémas des karmas souillés antérieurs et les schémas de discrimination qui vont passer en devenir présentement avec une réaction, un samskara. D'accord? Ça va? C'est ce qu'il faut faire comme travail. Et on n'a pas besoin d'être dans la méditation profonde, hein. C'est juste un regard analytique, hein. Une observation de soi dans la réaction, et hop, cette réaction est elle-même perçue à nouveau, qui va créer une réaction. Eh bien, on y met des règles, vue pure, sans discrimination. Il y a réaction de « j'ai peur d'être chez Nazi » ou « ouais, je suis chez Nazi ouais. ». Comme ça, tu vois, grosse tête, ça y est, mon grand mama m'a dit que j'étais compassion chez Nrezi. Il y a des gens qui ressortent d'initiation tantrique, ils disent, j'ai reçu une grande transmission tantrique, etc., puis ils friment. Si tu n'es pas observateur de ces réactivités, là, tu mets en jeu un démon. Un démon a passé la porte. Il a pris les commandes d'une aptitude de la conscience. Il a pris les commandes et il a pris d'assaut un ministère, si j'ose dire. C'est pour ça, moi je résume des fois les 5 agrégats, hein, parce que 5 agrégats c'est peut-être arbitraire, hein, à 2 grands, perception et réactivité. Cette réactivité elle-même va être filtrée par la perception, l'entendement, le jugement éventuellement. Hein, comment on juge cette phrase « vous êtes chez Nazi », comment on l'entend. Et comment c'est, qu'est-ce que ça va stimuler comme réactivité? C'est une réactivité d'abord d'imagerie. Et puis après, plus, de façon plus sémantique, et puis après une réactivité vraiment d'impact avec une humeur d'âme, hein, un sentiment fort et un pli, hein, qui peut se faire. Enfin voilà, vous connaissez un peu toute la genèse des agrégats.
Tu parles d'un démon, c'est le plus gros démon qui prend l'assaut au ministère.
Oui. Alors tout s'appuie sur la base de l'ignorance, sur la base après de la discrimination, puis la soif, les illusions que ça procure, la soif, c'est des illusions qui sont ballottées entre satisfaction et insatisfaction. On est constamment ballotté de satisfaction à insatisfaction. Alors bien sûr, quand il y a une insatisfaction, on la rejette d'emblée, au lieu de l'écouter, la goûter même, d'accord, la constater. Et quand il y a satisfaction, on se croit arriver à ses fins, parce que dans satisfaction, c'est faire en sorte de trouver satiété à la soif. Si j'ose transformer l'étymologie, je ne sais pas, mais moi, quand j'entends satisfaction, pour moi, dans le sens-là, c'est une fonction, en tout cas, une fonction où on se croit arriver à satiété. Et arriver à cette satiété, on espère que ce soit un état définitif. Parce qu'on est toujours à réduire en état absolu. Alors si on trouve satiété en mangeant des frites, eh ben, on va dire, je reprends des frites.
Hein?
Le café. Une blonde, une pâtisserie. Hein? D'accord. Et c'est là qu'il faut analyser. Et on est ballotté constamment par satisfaction, insatisfaction. C'est la première des huit dharmas mondains, on dit. Les préoccupations mondaines, c'est temporel. C'est tout le temps, ça n'a pas de fin. C'est pas le combat à avoir. Se prémunir de toute insatisfaction et avoir une boulimie de satisfaction. Parce qu'on rentre dans les jeux de la soif et après, on va vivre par compensation. Et puis une décompensation vient, hop, vite, une compensation. Vous vous souvenez, les huit dharmas mondains, on appelle ça. C'est dharma au sens d'une phénoménologie, des processus, qui, bien sûr, on a une distinction entre insatisfaction et satisfaction, mais on y met toute son énergie, on met toute son énergie là-dedans, dans un combat. Mais c'est un combat sans fin. C'est pour ça qu'on dit mondain. C'est que des causes et circonstances qu'on va mettre en place pour avoir satisfaction. Mais les causes et circonstances, c'est une réunion de paramètres qui, un seul paramètre vient à manquer, tout s'effondre, la satisfaction va s'effondrer. Et donc il y aura insatisfaction, avec sentiment de déprime. D'accord ? Et ainsi de suite. Dès qu'une satisfaction n'a plus les circonstances pour être maintenu, il y a une phase de dépression. On le retrouve partout. Après avoir bien mangé, il y a une phase de dépression. On est comblé, même physiquement. Quand on a un plaisir, en tout cas chez l'homme, une satisfaction, on cherche satisfaction dans le plaisir, au lieu de goûter le plaisir. D'accord ? On utilise le plaisir pour satisfaire la soif. Et cette soif vous dit, on peut mettre fin au désir. C'est ça le processus d'illusion. Eh bien, si au moment du plaisir, on se dit, ça y est, j'ai trouvé satisfaction, une apothéose finale, et ça y est, j'ai tué le désir, la soif a dit, super, j'ai réussi à mes fins. Et puis après, boum, phase de dépression. Les hommes connaissent ça, je ne sais pas si c'est les femmes. Après éjaculation, phase de dépression. Parce qu'on ne peut pas maintenir un état de satisfaction. Et c'est pour ça qu'on trahit le plaisir. Le plaisir est juste fugace, mais prenez-en soin, goûtez-le. Mais après, on peut goûter le déplaisir. De la même manière. Avec sa partie dense. Vous voyez ? Mais si on a fait un excès, une apogée de quelque chose, on espère que ce moment de satisfaction, qui est une illusion, soit absolu, aboutisse. Ça y est, j'ai trouvé. Et on les entend, les personnes qui cherchent ça. Ça y est, j'ai trouvé réponse à ma vie, le sens de ma vie. J'ai rencontré un grand lama. Dans le bouddhisme, j'ai trouvé mes réponses. Et pourquoi vous avez besoin de l'extérieur pour trouver des réponses ? Raisonnez. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour répondre à vos questions. Eh bien, ça y est. Ou alors, ça y est, j'ai trouvé l'âme sœur. D'accord ? Alors, on est perché, bien, euphorique. D'accord ? Et puis, les conditions changent. Ça peut prendre un an ou deux jours, trois jours. Il y a un fameux film qui dit « L'amour dure sept jours », je ne sais plus quoi. Vous voyez ? Et puis après, comment on gère cette décompensation ? La vanité, le sentiment de vanité. Constat. C'est le premier passage au monde adulte spirituel. On assume la vanité, c'est-à-dire on s'est fait leurrer. Non pas que la vie est vaine, d'accord ? Mais le sens que nos désirs souhaiteraient, le sens que notre soif souhaiterait est vain. La vie n'est pas de ce sens-là, si vous voulez. Donc il n'y a pas une vanité en soi non plus. Hein. Mais il y a une vanité dans des causes et circonstances bien données. D'accord ? Où on donne à la soif de décréter quel est le sens à la vie. Eh bien, hop, moment de satisfaction, et puis après, poum, déclin, déprime. Et c'est au moment de la déprime, hein, c'est intéressant, ce qu'on appelle dans notre culture biblique la mélancolie, l'amertume. C'est amer, oui, mais goûte cette amertume. Hein, on est pas loin de Noël. Hein. L'amertume, c'est représenté par le roi mage qui amène la myrrhe, hein, l'encens, la myrrhe. C'est la même racine. En plus, c'est aujourd'hui l'épiphanie. Voilà. Parce qu'on est le 6 janvier. Donc, hein, la myrrhe, hein, qui est le nom ésotérique de la Vierge Marie, Myriam. Hein. Myriam, parce que la propre amertume, c'est de donner vie à un condamné. Alors, c'est pas juste la Vierge Marie, effectivement. Le scénario est tragique. Hein. Là, c'est une mort annoncée. Hein. Marie, elle sait déjà qu'elle accouche d'un crucifié, un futur crucifié. Hein. D'accord. Le Christ le saura plus tard. Hein. Il l'apprendra hein, dans le désert, etc.
Ah d'accord. Marie, elle l'a su avant.
Ah oui. Ah, oui. Mmh. C'est pour ça qu'il y a plein de tableaux où on représente l'amertume, la mélancolie, avec la Vierge Marie regardant avec mélancolie son fils. Elle n'est pas réjouie, hein. Ah. Non. Mais c'est la base, la maturité spirituelle. Tous les prophètes de la Bible sont des mélancoliques, mais ils l'assument. Non pas pour décréter la vie est vaine. Non. C'est vain de laisser la soif décréter du sens de la vie. Vous voyez ? C'est une prise de conscience. La vanité, c'est la petite sœur de la vacuité, pour moi. C'est une vacuité du sens qu'on souhaiterait mettre, d'accord ? Du sens que nos désirs souhaiteraient. D'accord ? Et dès qu'il y a des insatisfactions, ben, la réalité de la vie nous rattrape. C'est que ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas tes désirs qui décident du sens de la vie. Et ce n'est pas non plus tes désirs, l'inverse, hein, ton aversion qui donne sens à la vie non plus. D'accord ?
À chaque fois, je ne sais pas, je vois neutralité.
Équanimité, je préfère dire, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est-à-dire être un observateur hein, des fluctuations de satisfaction à insatisfaction. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on va régler le problème quand on sera éveillé. Si vous pensez régler le problème de la fluctuation de satisfaction à satisfaction, c'est votre soif qui s'empare d'un projet comme étant l'éveil. Et c'est pas, ça ne sera pas l'éveil. Peut-être un nirvana, et encore, vous voyez hein? Attention. Et là, c'est des propensions à renaître dans le monde des dieux sans forme ou avec forme. Voilà. Attention. La soif est vraiment... Hein? Le virus même, d'accord. Déjà, faire l'extinction de la soif, c'est énorme, d'accord. C'est pas l'état de Bouddha, mais c'est pas mal. Et on est plus, on se fait plus bluffer, quoi, d'accord. Mais on n'est pas cynique, hein. On n'est pas, voilà, d'accord. On n'est pas apathique, d'accord. Et ainsi de suite. Et il y a la règle de la vie, fluctuation de satisfaction à satisfaction. Mais on confond satisfaction, quand on a une expérience de satisfaction, on ne voit pas que c'est une satisfaction. On dit, si je suis heureux. Mais non, tu es en mode satisfaction. C'est-à-dire, ta soif a l'impression, hein, par le biais de la soif, on a l'impression d'aboutir à quelque chose de définitivement qui va me rendre heureux. Ça y est, j'ai ma maison, mon gamin, ah, je vais pouvoir être heureux. D'accord ? Et puis si on reste sur ce mode satisfaction, ça peut durer 20 ans, 30 ans, puis hop, un licenciement, tout s'effondre, un deuil, d'accord ? Tout s'effondre. Alors qu'on soit triste, c'est une chose, mais que tous nos projets, l'appétence à la vie va s'effondrer, c'est autre chose, vous voyez ? ou se dire la vie m'a trahi, je pensais être heureux, la vie est dure. Vous voyez, c'est tout l'inverse. La vie est belle, puis après la vie est dure. D'accord ?
Il n'y avait qu'un seul pilier.
Et oui, il y avait un petit truc, tac, qui s'est. Parce que, comme c'est dit dans le préliminaire, hein, d'accord ? C'est une satisfaction, insatisfaction, c'est de prendre pour tenter une permanence, trouver quelque chose de permanent à quelque chose qui n'est qu'une suite de causes et circonstances, une réunion de causes et circonstances. D'accord ? Mais c'est pas finir cynique, suspicieux, méfiant de la vie. Hein ? D'accord ? C'est être averti, simplement. Averti, il y a une fluctuation. Tout est impermanent, transitoire. Et pas confondre satisfaction avec bonheur au sens éveil, félicité. D'accord ? Le bonheur, c'est justement arriver à reconnaître cette fluctuation de satisfaction à satisfaction. Mais l'éveil ne règle pas cette fluctuation. Elle nous permet d'avoir une perception de cette fluctuation. D'accord ? Il ne faut pas utiliser l'éveil comme résoudre nos problèmes. L'éveil, c'est simplement acquérir de la lucidité. Ne plus se faire illusionner par la soif, la saisie et éventuellement l'ignorance. Tu pourras rajouter aussi ça dans l'entretien. Tout ça pour dire que les démons n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur prête des compétences, de la puissance, qu'on leur prête prétexte à sortir. D'accord ? Si on reste dans la confusion de prendre satisfaction pour un bonheur absolu, permanent, il y a un démon qui s'installe, ça y est. Il s'installe chez vous, hein ? C'est un squatteur. Pour l'instant, il ne fait rien de traumatisant. Il est cool, il se dit, je suis un bon squatteur, j'ai le frigo à domicile, je dors chez lui, je ne paye pas rien. Non, mais c'est ça. Il s'installe. C'est un démon qui ne fait pas de trouble. D'accord ? C'est comme un squatteur qu'on ne voit pas, mais de temps en temps, il prend un peu dans le frigo, mais suffisamment... Enfin, pas trop, pour pas être visible. Vous voyez ? Ça va ? Oui, et c'est surtout, voilà. Dès que, lors que, là, on contrarie le prétexte qui a fait venir le démon prend un visage de colère. D'accord ? Colère. Enfin, à nos yeux, ça va être colère, aversion, répulsion, peur, et ainsi de suite, d'accord ? C'est-à-dire notre satisfaction va... Nos modes de satisfaction, vous voyez, une vie tranquille, satisfait. Oui, je suis satisfait. On peut nous ranger là dans l'imbécile heureux, vous voyez ? Heureux, mais complètement manipulé, vous voyez ? C'est un peu comme dans les meilleurs des mondes. Tout le monde est heureux, n'empêche qu'il y a un Big Brother, vous voyez ? Ça va ? Eh bien, le Big Brother, c'est notre ignorance, nos illusions, mais on a suffisamment aménagé les compensations pour être tranquille. D'accord ? Ça va ? Oui, imbécile heureux. Voilà. Donc, on est dans une sorte d'opacité suffisante, d'accord ? Pour gérer sa vie, pour travailler, machin, etc., etc. Voilà. D'accord ? Mais il y a un démon ou plusieurs qui squattent. Il s'est installé. On a prêté, on a donné un prétexte à rendre une aptitude en démon qui va bouffer. D'accord ? Ça ne tient à rien, quoi. C'est comme avoir un virus sur l'ordinateur. Ça bug, machin, mais on s'en contente. Oh, ça va. Oh, c'est peut-être un virus, je ne sais pas. Mais au bon, j'arrive à utiliser mes logiciels. D'accord ? Et puis, voilà. Puis à un moment, il y aura des petites les enclenchements qu'on va faire, et puis pouf, là, le logiciel le plante totalement. Oui. C'est là où, hein, on peut déjà être dans une approche spirituelle, thérapeutique, préventive, comme je disais avec les préliminaires. D'accord ? Les préliminaires méditaient sur la défectuosité du samsara. Le samsara, c'est ne pas comprendre qu'il y a une suite de causes et circonstances fluctuantes de satisfaction, insatisfaction. Et que ce n'est pas le problème, la fluctuation. D'accord ? C'est d'augmenter de façon disproportionnée, distordue, d'accord ? Les amplitudes entre satisfaction et insatisfaction. La fluctuation, elle est de l'ordre de la nature des choses, de la vie et de l'esprit, éventuellement. D'accord ? Cette fluctuation. Hein ? C'est une alternance. D'accord ? Mais le problème, si on s'arrête sur une sommité de satisfaction dans cette alternance, vous voyez là, l'aspect en sommité, hein, et qu'on la maintient en état, et bien on crée des schémas qui vont faire des amplitudes plus fortes. Et cette satisfaction va être des moments de zèle, d'enthousiasme, et puis des moments d'euphorie, et plus ça va être ça, d'accord, hop, la chute est d'autant plus forte. C'est-à-dire la base, hein, la descente de l'insatisfaction va être beaucoup plus forte, dense. Hein, et c'est l'amplitude. Et c'est l'illusion, la soif, hein, qui va créer l'amplitude. Et plus il y aura d'amplitude, plus on voudra ce moment de satisfaction. Mais il n'y a pas de limite. Donc on va passer à des perversions, des distorsions. Le désir va être perverti au lieu d'avoir simplement un désir normal et puis savoir goûter nos plaisirs et rien se refuser. Il ne faut pas se refuser le plaisir. Il faut se refuser de le manipuler. Vous voyez ? Et on verra aussi nos déplaisirs. Tout a une signification, tout va être un enseignement.
Tout a sa place.
Tout a sa place et c'est fluctuant. On assume la transition des situations, des événements, de nos humeurs d'âme. D'accord ? Mais on ne passera pas, on sera pas lunatique, enfin, soupolet. De temps en temps, on sera comme ça, puis de temps en temps, là. Mais on ne peut pas... c'est pas le fait du contrôle de cela, hein, d'accord, qu'on cherche. D'accord ? Bon. C'est d'avoir la vue pure, la perception naturelle de cela. Vous me suivez ?
Ça serait plus savoir jouir de tout ce qui se passe, que ce soit là ou que ce soit là.
Jouir, si tu ne mets pas d'autres connotations encore. Jouir, effectivement, j'utilise aussi ce mot-là, hein, souvent. Hein. Dans jouer, il y a oui. Hein. Et dans ce oui, on a arrivé à faire plus appel au mais donc alors, comme je dis. Le oui sans le mais donc alors. D'accord ? On est d'accord. Le mais donc alors et d'autres choses, c'est la soif qui s'empare d'une discrimination. Oui, mais si je continue à faire ça, je pourrais l'avoir plus souvent. Vous voyez ? Mais comment on peut y arriver ? Donc alors, comment ? Oui. Alors, je suis d'accord pour ce mot « jouir », d'accord ? Hein ? On l'utilise, hein, dans le bouddhisme, hein, on dit... c'est traduit, hein, « tche »,« tche rul », on dit c'est « rul », c'est le divertissement, c'est, c'est un terme, ainsi dit, un accomplissement yogique. On prête plus ces termes-là à la vue yogique, d'accord ? Je ne vois pas pourquoi, mais bon... C'est un regard, hein, où, justement, on ne crache pas sur le plaisir ni le déplaisir. D'accord ? Tu vois ? Et ce tche-rul, tche, c'est pas le tche de dharma ou de coupé, c'est le tche de conduite. Et rul, c'est un mot qu'on utilise pour dire les instruments de musique. jouer. Alors, tu vois, c'est proche de jouir. Hein. Jouer, hein, c'est trouver divertissement. D'accord ? C'est ce que j'appelle le jeu de l'illusion. Et conduite, le vrai sens de conduite, c'est faire usage. Tu vois ? Alors, dans jouir, on jouit d'une voiture. Ça veut dire, en français, faire usage. Il ne faut pas passer au jouir de avoir que du plaisir. D'accord ? C'est pas hédoniste. C'est pas une vue hédoniste. D'accord ? Hédoniste, c'est on met la jouissance comme l'objectif, la finalité. Oui. Hein. Ou c'est le plaisir qui prime, etc. Mais c'est boulimique. Et à un moment, il y aura une phase de descente. D'accord ? Accepter le plaisir, et c'est pas accepter le déplaisir, mais avoir notre part de participation. Notre mot à dire. Notre lucidité n'est pas empêchée pour autant.
C'est surtout ça, la subjectivité.
Voilà. Alors, dans jouir, il y a oui dans le sens je veux voir. Je veux voir de quoi est fait le plaisir, de quoi est fait le déplaisir. Je veux être là, je veux être participatif. D'accord ?
Acteur.
Acteur, voilà. Ça va ? Et donc, des fois, j'aime bien ce mot user, faire usage. Il y a un plaisir, je ne veux pas cracher dessus, j'en fais usage. D'accord ? Mais je ne laisse pas le plaisir pris en otage par la soif, qui lui décrète que le plaisir donne du sens à la vie. Mais non, pas plus. Et que le plaisir va pouvoir tuer le désir, comme je reprends les mots de Socrate.
Le plaisir va
pouvoir tuer le désir. Oui. Parce que, fondamentalement, on sait que le désir est insatiable.
D'accord.
Et à chaque fois qu'il y a un plaisir, on pense, on arrive à satiété du désir. D'accord ? Voilà. Après, d'autres personnes font une autre stratégie, c'est qu'ils se coupent du plaisir. Ils s'interdisent tout à côtoyer, à avoir toute expérience de plaisir. Alors souvent, c'est avec le sexe. Hein. C'est un peu la voie monastique au sens classique du terme. Pas bouddhique, hein, bien sûr. Parce que le bouddhisme n'est pas un monachisme. Hein. Si on ne met pas la chasteté comme étant une valeur de salut. D'accord ? La chasteté, c'est pour se prendre à défaut de nos illusions. D'accord ? On se met en restriction pour voir l'illusion. Et après, on n'a plus besoin d'être chaste non plus. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une finalité. C'est une ascèse. Voilà, on peut le faire en 6 mois, 2 mois, voilà. Mais une fois abouti, ça ne sert à rien de continuer. D'accord ? Enfin, si, peut-être, parce que c'est bien aussi. 10 ans moine, c'est très confortable. Enfin, pas la chasteté, mais de ne pas avoir plus d'enjeux que ça, quoi. Voilà. Mais il y a des personnes qui ont d'autres stratégies vis-à-vis du plaisir. Hein, dire, voilà, je me prive de toute expérience de plaisir et je vais pouvoir éradiquer le désir. Et ça ne marche pas. D'accord ?
C'est toujours
la frustration. Ça peut créer des frustrations. Ça peut créer de la complaisance. Une pseudo-satisfaction. Parce que physiologiquement parlant, tu peux faire taire ton organe sexuel, éventuellement. Mais c'est grave, enfin, je ne sais pas. C'est contre nature. J'ai entendu un moine réputé, je ne veux pas dire son nom, il a une réputation médiatique, dit, on lui posait la question, alors ça va la vie de moine ? On ne le poserait pas à un chrétien, on le pose à un bouddhiste, un bouddhiste français. Et il dit, oui, ça, j'ai ça me gratouille un peu moins. Bon, c'est physiologique. Ça a rien, c'est pas une sagesse. D'accord ? Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de moines français qui ont arrêté d'être moines parce que pour eux, c'était d'arrêter d'avoir du désir. D'accord ?
Une flagellation, parce que ça peut être
C'est contre nature aussi. C'est-à-dire, tu as un projet, c'est ta soif qui s'empare encore de dire je vais me priver de plaisir. Comme ça, effectivement, je ne vais pas avoir de mode de dépression. D'accord? Donc c'est vrai que ça rend très... Ça libère, c'est vrai. Ça allège la vie, d'accord, etc. Alors il y a des manques, effectivement. C'est ça le but hein, de la chasteté, c'est de voir en manque et voir les attentes qu'on met dans l'objet de désir. D'accord? Une fois qu'on est désillusionné de ça, c'est bon. Hein? On a utilisé la chasteté à bon escient. Mais si on utilise la chasteté avec la soif, d'accord, de se séparer de quelque chose d'impur, comme étant le plaisir, on est foutu. Parce qu'après, on va être en contradiction. On va se dire, oui, non, mais la pâtisserie, c'est autre chose. Mais c'est pareil. La pâtisserie devient ton objet de désir. Alors c'est sûr, c'est pas une blonde ou un grand brun. Hein, mais ton fonctionnement karmique de la saisie d'un désir comme réel et un objet de désir comme réel est continu. Tu réalises pas la vacuité du désir. D'accord ? Donc il faut toujours être alerte. D'accord ? Dans toutes les traditions, hein, on demande ça. D'accord ? C'est pas juste le bouddhisme. Hein. Et alors, pour certaines personnes, oui, mais ça pourrait pas être plus facile. Dites-moi ce que je dois faire. Je dois être moine, pas moine, etc.
Je veux faire ma sauce.
La machère d'Orgé, quand je voulais moine, il disait, pas à peine, ça éveille pas. Oui, mais j'ai envie.
Ça fait quand même 10 ans.
Grosso modo, ouais. Ouais, 9 ans, 10 ans, ouais, je sais plus. J'ai eu un peu de problème. Ma vie est sectorisée en 5 ans, c'est bizarre. Mais j'ai eu 5 années de réflexion, donc je réitérais mes vœux, je faisais à échéance. Et après, j'ai été moine Getsu sans échéance, c'est-à-dire tu les rends quand tu veux. Voilà. Il n'y a pas de vœux à vie, hein, par contre. Hein, souvent, il y a oui, des moines à vie. Ben non. Ah, si tu rends tes vœux, c'est une rupture. Enfin, mais non, c'est sans échéance. Tu les rends quand tu veux. Alors des fois, on prend des vœux avec échéance, pendant un mois, deux mois, un an. Et puis au bout d'un an, tu reconduis le contrat ou pas. Voilà. Puis pendant tout ce temps-là, ben, je regardais mes attitudes, mes réactions, et je me sentais bien, quoi. Je me voyais bien, voilà. Mais c'était ajouté donc à méditation et ainsi de suite. Et puis en lisant, bien sûr, il faut lire les textes bouddhiques, hein. Le Vinaya, etc., où on formule bien l'intérêt d'être chaste. On ne dit pas on est chaste parce que le sexe serait impur. Déjà, c'est foutu. Dire que tu es dans une discrimination. Et après, tu dirais bah, la femme est impure, ou l'homme est impur pour la femme, et ainsi de suite. Mais on part dans les discriminations pas possibles. Hein. On approche déjà un peu le sens des démons, hein, ça va un peu. Les démons, c'est pas, ils sont pas comment visibles, comme on les entend. Vous voyez un peu cette idée du squatteur qu'on ne sait pas qui il a. Il se cache quand on se lève et il agit dans la nuit. On peut avoir agir dans la nuit. Le siège des démons, hein, c'est au niveau du chakra du cœur.
Si ça agit dans la nuit, ça serait nos rêves.
Voilà, alors ils peuvent agir. Hein, et les rêves vont être l'expression de leur activité. D'accord ? Alors, ça peut être très flagrant, etc. etc. Donc c'est intéressant de faire une analyse du rêve, enfin voilà, le constater, et demander conseil éventuellement. Et puis ça prend différents scénarios, hein, effectivement.
Rêve et cauchemar, d'ailleurs, c'est différent.
Rêve et cauchemar,
ouais,
oui. Oui, le cauchemar, c'est pas très joyeux. Hein. Mais les démons peuvent s'emparer d'un rêve. D'accord ? C'est pas toujours, justement, flagrant. Hein. Au sens que le démon va nous faire faire un cauchemar. Il peut te faire un très très beau rêve érotique. Hein. D'accord? Hein? Ou d'opulent, machin, etc. etc. Hein? Des rêves empruntent où s'immisce le démon, hein, entre guillemets. Hein, bien sûr, il faut bien définir hein, ça, cet aspect perverti, hein, d'accord? Hein? Et tu es en train de voler. Alors, c'est très agréable, mais c'est un démon. D'accord? D'accord? C'est l'envie de s'échapper de quelque chose, de ne plus avoir le poids de quelque chose. Ça peut être le poids de l'administration, par exemple. C'est pesant, hein, l'administration, enfin pour moi aussi, hein, remplir des papiers, machin, machin. On sent cette lourdeur. Eh bien, tu peux avoir l'envie d'échapper à ça. D'accord? Et dans la voie spirituelle, hein, trouver une échappatoire, c'est passer dans des illusions, hein, d'élévation spirituelle, un peu comme hier une dame qui me croise, qui me connaît, et elle est plutôt anthroposophe, et elle me dit, tu sais, tout le temps sur la terre, il faut mieux s'élever, machin. Elle fait une dichotomie, vous voyez, entre le bas, le haut, hein, souvent dans le New Age, on parle de ça, hein, hein, l'incarnation, la terre, etc., il faut s'élever, puis elle monte le ciel, vous voyez, hein. Automatiquement, il y a un démon qui s'immisce, il y a une discrimination, d'accord. Il faut être lucide, qu'on soit sur terre ou dans le ciel. Je ne sais pas ce que veut dire être dans le ciel, mais... Hein, vous comprenez ? Eh bien, il peut y avoir une petite lourdeur comme ça, ne serait-ce que la lourdeur administrative. On a une réaction de... Hein ? Vous voyez ? D'être, on nous impose quelque chose, d'accord ? C'est lourd, voilà. Eh bien, on peut avoir la tentation d'échapper à ça. Avoir un projet spirituel pour échapper à ça. Alors effectivement, quand on a un grand Rinpoché, hein, il y a quelqu'un qui remplit la fiche d'imposition pour nous, hein, d'accord ? Pour le Rinpoché, quoi, d'accord ? Hein ? Quand on est grand maître, hein, on est nourri, logé, il n'y a aucun problème. Hein. Hein, le Dalai Lama, il ne fait pas ses tarifs de stage, hein, c'est, il ne se mouille pas, hein, d'accord ? Hein ? D'accord ? Donc, il n'y a pas de lourdeur administrative. Ouais, il y a des responsabilités politiques, etc. Hein, ça peut, voilà. Mais une fois... et donc, ça peut après amener à avoir un rêve où on se sent bien de s'élever. D'accord ? Donc, allègement, on vole et satisfaction d'être au-dessus de. Vous voyez ? Oui, mais c'est au-dessus de moi, tout ça. Oui, je ne suis pas de ce monde. Une fois, je parle d'une personne... tu vas voter et tout. Alors, moi, j'admets l'abstentionniste en tant qu'anarchiste. J'admets l'abstentionniste politique. Mais elle, elle dit, non, je vote pas, je suis pas de votre monde. Vous voyez ? Là, il y a un démon, là. Vous me suivez ? Ah. C'est une identification, hein, discriminant de vous et moi. D'accord ? Ah. Eh bien, ça peut, dans le rêve, se révéler par je vole, je suis légère. Et ça, c'est... D'accord ? C'est complètement vaporeux, c'est, je sais pas. Hein. Et là, c'est une satisfaction, effectivement, c'est pas un cauchemar. D'accord ? Mais il faudrait plus avoir le sens du vertige pendant ce rêve. Et là, le sens du vertige, si on a un sens du vertige alors qu'on s'élève, là, on rentre dans une rationalité. Et le vertige serait... désagréable à vivre dans le rêve. Mais il nous fera voir. Ah, d'accord ? Ça va ? Il nous fera voir le démon. Oui, je sais. Hein ? Donc, si on a un sens du vertige, d'accord ? Alors, finalement, ça passe au cauchemar. Mais si on arrive après, enfin, si on arrive, si notre rêve nous amène après vertige, on revient sur une base pour plus avoir ce vertige. Là, ça veut dire qu'on est participant, on est acteur de quelque chose. Donc le démon n'aura pas d'emprise plus que ça. C'est un exemple de scénario onirique. Hein. D'accord ? Il faut bien être subtil dans la traduction, hein, des rêves. Parce que certains disent, ah oui, je volais, ah mais c'est parce que t'es spirituel. Mais non, t'es New Age. T'es vrillé, quoi. Hein, tu veux que l'espace et rien assumer d'autre. D'accord ? faire attention, les démons sont des... D'abord, ont une approche gentille, séduisant. Les sirènes, c'est séduisant. Hein, d'accord ? Si tu marches dans leur séduction, t'es foutu. D'accord ? Tu voles. D'accord ? Au revoir. Hein, il n'y a plus personne. D'accord ? T'es allumé. Il y a des rêves aussi avec des belles luminosités, hein, etc., qui sont témoins d'un démon qui s'immisce, qui ne montre pas son vrai visage. Mais tu te perds. C'est ça l'idée du démon, hein, c'est se perdre. C'est perdre notre droit d'acteur, de lucidité, à la lucidité, à participer, à user de... Oui.
Donc c'est eux qui gouvernent nos humeurs, c'est eux qui gouvernent nos réactions, c'est ça?
Voilà.
Que ça veut dire.
Alors ces démons, c'est pas des individus. Attention, hein, on n'est pas,
hein,
on n'est pas dans le chamanisme ou l'animisme, d'accord? C'est pas des entités. C'est des fonctionnements, enfin c'est des dysfonctionnements. C'est des bugs, des virus dans la matrice de la conscience. D'accord.
Je préfère cette définition. Parce que c'est vrai que quand on entend des mots, tout de suite, on voit la
définition. Voilà, là aussi, c'est connoté. Mais parce que c'est pas faux. De façon, c'est une métaphore. Mais le rêve, par exemple, nous montre, nous fait montrer des monstres.
Votre réalité, quoi.
Le rêve va utiliser le monde du ça, c'est-à-dire le monde de l'imagination, pure, sans convention conceptuelle. D'accord ? Hein ? Donc effectivement, ça prendra les visages qu'on voit en général dans les démons, dans les frontons d'église, les gargouilles, machin, etc. Il y a des églises, c'est fabuleux, hein, le masque de la colère, le masque machin, etc. Il y en a plein, hein, d'accord ? C'est universel, ça fait partie de ce qu'on dit dans le soufisme, l'archétype image. Hein ? Il faut les reconnaître. Là, ici, on parle de Tchadopa, hein, d'accord ? Mahakala Tchadopa. C'est un visage, d'accord, qui est là vraiment le démon des démons. C'est quand il d'accord, mais dans sa toute splendeur de la compassion, lucidité. Mais ça, on ne sait pas le reconnaître. C'est pour ça que ça prendra ce visage qui fait en sorte que on en aura peur. Et l'approche de la pratique, c'est justement de ne pas avoir peur de cette peur, pour voir le vrai visage que c'est la compassion. Vous me suivez ? Le projet des Mahakala dans le tantrisme, d'accord ? Ou dans certains mouvances chrétiennes aussi, hein, où on prend le diable dans le bon côté, hein, comme étant un révélateur. Après, il y a les sectes diaboliques, hein, c'est autre chose.
Hein.
Il révèle ton fonctionnement. On sait bien, hein, le rêve, t'as pas le contrôleur, le surmoi, d'accord ? Donc on dit, en psychanalyse, c'est le monde du ça, hein, le défoulé, le refoulé peut venir à l'esprit. D'accord ? C'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, ça dépend... type de rêve, enfin d'où ça part, d'accord. Donc ça montre le fonctionnement de l'esprit, d'accord, dans les rouages imaginales. Donc c'est intéressant. Après, on peut faire toute une science d'interprétation. On a ça dans le bouddhisme, dans toutes les sciences. Rouages.
Rouages.
D'accord. Mais ça après, on peut utiliser le rêve pour réaliser la nature de l'esprit. Mais je ne dirais pas que le rêve, c'est l'expression de notre nature d'esprit. Mais par le rêve, comme c'est beaucoup plus imaginal, évanescent, etc., il n'y a pas de solidité.
Non, je voulais plutôt le rêve dans la nature des démons.
Oui, comment fonctionnerait un démon, mais un dieu aussi. Enfin, une part, il y a des parts de lucidité qui vont participer au rêve aussi. D'accord ?
Voilà.
Oui, il n'y a pas que des démons. Là, le thème, c'est les démons, donc, etc. Mais il y a des parts Dieu et démons, dans les métaphores. D'accord ? Et Dieu, c'est ce qui va donner la participation à la lucidité, aux félicités, et ainsi de suite. D'accord ? Mais un Dieu peut vite passer en démon. On dit qu'on fait d'un Dieu un démon, des fois. C'est des mécanismes. Donc le rêve, en tant que le scénario, tout ça, d'accord, montre le fonctionnement de notre esprit. Et on dit, on aura notre bardo du devenir post-mortem, va être le reflet de nos rêves. D'accord ? Maintenant, pour parler de la nature de l'esprit, effectivement, pendant le rêve, on peut réaliser la nature de l'esprit. Justement, l'union de clarté, vacuité. Grosso modo. Oui. Et là, on utilise le yoga du rêve. Et là, l'interprétation du contenu du rêve nous importe peu. Non, puisque en plus, on va amener l'imagerie nous-mêmes. D'accord, on va s'amuser. Et la finalité, c'est de réaliser justement l'illusion de saisir ce qui apparaît comme étant réel. Et de saisir notre perception comme étant réelle. Enfin, fondée sur une réalité objective. Et ainsi de suite. Le yoga du rêve, c'est vraiment quelque chose qui... beaucoup plus facile que de réaliser la vacuité dans l'état de veille, l'état diurne. C'est plus facile.
Tu disais tout à l'heure que les démons agissent la nuit. Mais c'est pas si horrible, mais la nuit, ça veut dire.
C'est une. C'est une image. Je parlais du squatteur démon. Pendant qu'on dort, lui, il va vider le frigidaire. Il va utiliser notre maison. D'accord ? Il va squatter. Alors, dans la nuit, ça veut dire il fonctionne en zone obscure.
C'est-à-dire, pas seulement quand on dort.
Et, oublie dormir, c'est une image, la zone obscure. Il va profiter de notre manque de lucidité pour fonctionner. La lucidité est anti-démo. D'accord ? T'allumes la lumière, il n'y a plus d'obscurité. D'accord ? Donc quand je dis il agit dans la nuit de notre obscurité mentale.
Il agit dans le laisser-faire.
Pardon ?
Il agit dans le laisser-faire.
Qui quoi ?
La nuit, c'est dans le
laisser-faire. Ah non, d'obscurité mentale, dans notre manque de lucidité. Dans notre, il agit dans le refoulé subconscient, l'inconscient. Il agit en mode caché, camouflé. C'est ça que je voulais dire par la nuit, c'était une image du squatteur. On est en train de dormir, on a un squatteur, il va manger quand on sera couché. Vous voyez ? Et bien, nos démons, ils agissent dès lors qu'il y a une obscurité mentale. Ils profitent, ils agissent sous cap, voilà, son fonctionnement va venir, d'accord ? Jusqu'à un moment, ça va se gangréner, pourrir, et là, c'est trop tard. C'est un peu comme une carie. D'accord ? La carie, elle commence tout doucement à notre insu. D'accord ? Dans notre obscurité mentale, c'est l'insouciance. Tout se passe bien, j'ai pas mal, donc ça va. D'accord ? Et puis on laisse passer. Puis on continue à mal se brosser les dents, je sais pas, et ainsi de suite. Et à un moment, il y a le mal. Ça veut dire que la carie, qui est un peu le démon, d'accord ? D'accord ? A profité de notre manque de vigilance, d'hygiène dentaire, pourra continuer et gangréner, enfin gangréner c'est pas le mot, hein, mais proliférer, enfin voilà, pourrir là-dedans. Et à un moment, il y a le corps, le système nerveux du grand corps va faire mal. D'accord ? Et ce moment mal, eh bien, c'est là où on sait qu'il y a eu un squatteur. Alors on est lucide, hein, mais lucide trop tard. C'est-à-dire on n'a plus, hein, un moyen d'action, de prévention et de guérison. Il va falloir faire une ablation, si j'ose dire. Hein ? Ça va ? Comme dans Tche ou des choses comme ça, voilà. Et Mahakala, c'est le moment où, justement, ça fait très très mal. Il va falloir la chirurgie, d'accord, etc., la grosse armée, quoi, la grosse artillerie. Il y a 6 bras, etc., d'accord. Ça va, agit dans la nuit, hein, dans l'inconscient. Et des zones d'inconscience, on en a plein. Hein, on n'est pas dans le top de la conscience. Ça n'existe pas, je pense pas. On peut pas être totalement conscient de chaque instant. Voilà. Faut arrêter ce syndrome d'infaillibilité. Hein, les gens qui disent « je vais être dans la pleine conscience voilà, », etc. Faut arrêter, quoi. Ça va donner des gens parano, quoi. Si on a une capacité de ressort, de recours constamment, par contre, de faire usage constamment, d'accord, du raisonnement, d'accord, de la vigilance, voilà, c'est ça. On a des constantes, hein, des outils constamment disponibles, mais totalement dans la grande lucidité de clairvoyance absolue, je sais pas ce que ça donnerait, quoi, je sais pas. On va prendre, pour raccourcir, on va prendre juste le refuge de Chadrupa, pour reprendre bien les mots. Les autres refuges, vous les connaissez, les 3 joyaux, les 3 racines.